Campus Bordeaux.
Point 1, 88.1.
Campus Bordeaux, 88.1.
Il est 13h10 et nous recevons à présent en direct Véronique Bertil, maître de conférences en droit public à l'Université de Bordeaux. Bonjour à vous, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais très bien.
Alors, vous êtes membre du Centre d'études et de recherches comparatives sur les constitutions, les libertés et l'État, où vous menez des recherches en droit public. Et votre expertise se porte principalement sur les langues régionales et les outre-mer. Vous étudiez notamment la minorisation des pratiques linguistiques régionales dans leur ensemble. Et en ce qui concerne les territoires ultramarins, vous vous intéressez à leur statut juridique. Et vous avez aussi cofondé, par ailleurs, en 2018, l'Association des juristes en droit des outre-mer, l'AJDOM, dont vous êtes la secrétaire générale. On va reparler de tout ça plus en détail. Mais tout d'abord, première question, vous êtes donc maîtresse de conférence en droit public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement et faire un rappel sur ce qu'est le droit public ?
Bien. Alors, je suis maîtresse de conférence en droit public. Je suis un enseignant-chercheur. Et dans les enseignants-chercheurs, il y a deux corps, le corps des professeurs des universités et le corps des maîtres de conférence. Pour accéder à ces corps, il faut avoir soutenu une thèse et avoir un doctorat et ensuite passer le concours d'agrégation pour accéder au corps des maîtres de conférence. Et tant qu'on ne passe pas ce concours, on est maître de conférence et on peut devenir professeur voix longue sans le concours au fil de quelques années.
Alors, votre recherche porte sur les langues régionales sur lesquelles vous travaillez depuis votre thèse à travers l'angle des droits fondamentaux et celui des inégalités sociales résultant d'une société française plurilingue, mais d'une politique d'unilinguisme. Avant de décrypter un peu tout ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre appétence pour les langues régionales et pourquoi vous avez décidé de vous spécialiser dans ce domaine ?
Alors, il y a eu un petit peu un double facteur ou une conjonction de facteurs. Au moment où j'étais en cinquième année, on disait un DEA à l'époque, maintenant on dit un Master 2. L'actualité juridique française était la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Nous sommes en 1999 et la question se posait de savoir la France avait signé, si nous allions ratifier, et le Conseil constitutionnel a rendu une décision pour dire que la charte comportait des clauses contraires à la Constitution et donc qu'on ne pouvait pas la ratifier. Et donc dans ce contexte, un des sujets d'actualité de mémoire était les langues régionales que j'ai choisies parmi ceux proposés par mes enseignants. Et j'ai pu ensuite avoir le bonheur de continuer en thèse puisque je voulais embrasser cette carrière universitaire depuis longtemps. Et j'ai continué, il y avait matière à continuer sur ce sujet-là en thèse, dans ma thèse de doctorat. Et ça, c'était la raison, entre guillemets, objective. Et de façon plus subjective, je suis réunionnaise et je parle moi-même une langue régionale, puisque je parle le créole réunionnais, qui est la langue régionale la plus parlée de France, puisqu'il y a 80% de locuteurs à La Réunion. C'est une langue régionale très vivante. Et donc, il y avait aussi un intérêt personnel une connaissance personnelle du sujet, si je puis dire.
Alors, nous vivons dans une société régie par une politique d'unilinguisme. C'est quoi une politique d'unilinguisme ?
Alors, une politique d'unilinguisme, unilinguisme, c'est une seule langue. Donc, c'est une politique où il n'existe qu'une seule langue officielle. Une seule langue a un statut juridique, c'est-à-dire est protégée, est enseignée, est la langue du procès. Je pourrais décliner tous les domaines. Et les autres langues qui existent, puisque par définition, les êtres humains sont plurilingues, ou en tout cas, la société française est plurilingue, du fait de l'histoire, que je parle aussi bien des langues régionales que peuvent parler les Français que des langues des migrants, quand il y a des migrations récentes ou même plus anciennes. Donc les individus peuvent être plurilingues, la société peut être plurilingue, mais l'État français, lui, est unilingue et ne reconnaît qu'une seule langue, et une seule langue a un statut protecteur en droit. Et donc mon sujet ou mon étonnement était de savoir quelle place pour ces autres langues, et plus précisément pour les langues régionales, qui, certaines d'entre elles sont historiquement présentes sur le territoire de la République française depuis beaucoup plus longtemps et véhiculent aussi une identité, une conception du monde et en comparaison avec d'autres États ou même sur les conventions internationales, il y a une protection de ce patrimoine linguistique partout sauf en France. Et donc ça m'a intriguée et j'ai voulu savoir pourquoi.
On parle d'inégalité sociale quand on parle des langues régionales. Est-ce qu'on peut aussi parler de discrimination et quelles sont ces inégalités ?
Alors, on peut aussi parler de discrimination, bien sûr. Et quelles sont ces inégalités ? Alors, il y a la fiction selon laquelle le français étant la langue de la République et la langue officielle de l'État, tous les Français la parlent et la connaissent, ce qui est largement vrai dans l'Hexagone majoritairement. Je laisse de côté la question des migrants. En revanche, dans les Outre-mer, les langues régionales sont encore très parlées. Et parfois, elles sont même les seules langues vraiment maîtrisées par certaines populations. Et donc, ces populations-là ne comprennent pas la langue dans laquelle l'école leur est donnée quand elles arrivent en maternelle, ne comprennent pas la langue du procès quand elles sont en justice devant des juges qui leur parlent en français alors qu'elles ne maîtrisent ou que le créole, ou qu'une langue amérindienne en Guyane, ou qu'une langue kanak en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Et donc là, ça crée des discriminations, et puis ça interroge aussi. Donc elles ne connaissent pas le français, et quelle est leur liberté d'expression si on les oblige à s'exprimer dans une langue qu'elles ne maîtrisent pas? Quel est leur droit à l'éducation si elles reçoivent l'éducation dans une langue qu'elles ne comprennent pas? Vous comprenez, on peut le décliner, le droit à la santé alors qu'elles ne comprennent pas ce que leur dit le médecin, ou le droit au procès, les droits de la justice, si elles ne comprennent pas la langue qui leur est... parler dans le tribunal.
Et pour continuer à parler de langues, certaines langues sont qualifiées de dialectes. Il y a souvent une connotation péjorative, comme si ce n'était pas une vraie langue. Est-ce que cette notion de dialecte, c'est une vérité d'un point de vue linguistique, ou bien est-ce que c'est une vision des choses qui est peut-être biaisée ?
Dans une vision linguistique, le dialecte est une variété d'une langue et n'a absolument aucune connotation péjorative dans scientifiquement en linguistique. Un autre terme qui se rapproche dans le langage courant de dialecte est le dialecte de patois et le mot de patois. Et là, patois et dialecte, dans le langage courant, non pas en linguistique, mais dans le langage courant, ont cette connotation péjorative, comme si ces parlers-là n'avaient pas le statut noble de langue, mais étaient une façon de s'exprimer, un idiome ou un parler inférieur.
Et est-ce que les langues régionales, du coup, sont aussi importantes que les langues dites nationales ?
Alors, importantes sur quel plan ? Alors, sur le plan linguistique, toute langue se vaut. Il n'y a pas de hiérarchie entre le français, l'anglais, l'allemand, l'occitan, le breton, le basque. Toutes les langues, toute forme de communication humaine que peuvent être les langues se valent. Elles remplissent la fonction de communiquer et d'exprimer ses idées. Donc, elles se valent scientifiquement, linguistiquement. Qu'elles aient plus ou moins d'outils comme une littérature importante ou quoi que ce soit. Donc toutes les langues se valent. En revanche, les langues deviennent un instrument de pouvoir quand une langue est choisie par un État et qu'elle devient la seule qui peut être parlée dans la sphère publique et que les autres langues sont réduites à des espaces privés ou ne sont plus du tout protégées. Donc il n'y a pas... Toutes les langues se valent. Il n'y a pas d'égalité ou de langue plus importante que d'autres, mais l'usage... Et l'officialisation ou les statuts qu'on donne peut faire qu'une langue devient dominante parce que c'est celle qu'on va utiliser dans tous les aspects de notre vie sociale.
Et en parlant de langue dominante, peut-être que ça a un lien avec ma question suivante. Il y a une part plus importante d'illettrisme dans les Outre-mer, en particulier à La Réunion. 21% de la population concernée contre 4% en métropole. C'est 15% d'illettrisme pour les Antilles et la Guyane. Comment ça on peut l'expliquer ?
Alors, j'ai donné quelques clés tout à l'heure. Les facteurs, le terme multifactoriel est à la mode en ce moment. Donc, évidemment, quand il y a un problème, les causes sont multiples. Mais évidemment, ça tombe sous le sens, et les études le montrent aussi, que le fort taux d'illettrisme qu'il y a dans les Outre-mer, plus important, trois fois plus important que celui qu'il y a dans l'Hexagone, est lié aussi à la question de la langue, puisque les enseignants sont les mêmes, le système scolaire est le même, les mêmes programmes, le même système, les mêmes enseignants qui ont été formés dans les mêmes écoles de formation des enseignants. Donc l'illettrisme s'explique aussi par ce que je disais tout à l'heure, que certains enfants arrivent à l'école, n'ont depuis leur naissance entendu parler que la langue régionale, que le créole, que la langue amérindienne, que la langue kanak, je donnais des exemples tout à l'heure. Et quand elles arrivent à l'école, elles se retrouvent confrontées à un enseignant qui va leur parler le français, dans une langue donc que ses enfants ne comprennent pas. Et il y a aussi tout un phénomène d'infériorisation ou de sentiment d'infériorité où l'enfant n'ose pas s'exprimer parce qu'il ne sait pas parler français. Donc il s'exprime très bien à la maison dans sa langue régionale, mais à l'école, du coup, il va rester muet. Et on va considérer donc qu'il n'est pas intelligent ou qu'il n'a pas la réponse ou qu'il ne travaille pas. Alors ce n'est uniquement parce qu'il ne maîtrise pas le français. Et ce sentiment va perdurer tout au long de la scolarité et l'enfant va donc traîner un échec scolaire et donc un illettrisme et l'incapacité de lire et d'écrire en français. Et donc oui, bien sûr, cette situation des langues régionales est un des facteurs de ce fort taux d'illettrisme dans les Outre-mer.
Alors dernièrement, vous vous êtes intéressé aux conséquences de la promulgation, c'était le 21 mai 2021, de la loi Molac, notamment en ce qui concerne les enfants scolarisés dans des écoles immersives. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une école immersive et ensuite le contenu de la loi Molac et les conséquences ?
Alors pour expliquer ce qu'est une école immersive, la langue de l'enseignement en France est le français. Et l'enseignement des langues régionales dans l'éducation publique, dans le service public de l'enseignement, dans l'école publique, est facultatif. Ça a été introduit, donc c'est possible, mais c'est facultatif. Alors quand moi je vous dis facultatif, nous on comprend facultatif pour les enfants. Tout le monde comprend facultatif pour les enfants. Mais le droit et le Conseil constitutionnel, le premier, est venu dire que c'est facultatif pour les enfants, pour l'école, pour l'administration scolaire dans son ensemble. Donc une école publique peut proposer un cours en occitan ou dans une langue régionale. L'enseignant est muté l'année d'après, l'école n'est pas obligée de remplacer l'enseignant et de reproposer ce cours de langue régionale, d'occitan dans mon exemple. Donc vous comprenez bien que ça n'encourage pas du tout, au final, l'enseignement de ces langues régionales. Les demandes étaient fortes dans certaines régions, et donc les toutes premières sont apparues dans le Pays Basque. Les premières écoles immersives, ce sont des écoles privées, ce sont des associations privées. Les Ikastola dans la langue basque, les Calandretas en occitan, notamment il y en a une à Pessac, pas très loin d'ici. Donc ce sont des initiatives privées de locuteurs qui voulaient sauver leur langue, qui ont créé des écoles immersives reconnues par l'État. Et le principe de ces écoles immersives, c'est que la langue régionale est la langue de l'enseignement, la langue de l'éducation et... quand c'est possible, la langue de communication dans l'école, mais les parents ne parlant pas forcément la langue régionale de cette école. Évidemment, l'école utilise aussi beaucoup le français, nécessairement. La loi Molac est un député qui a porté en 2021 une loi pour reconnaître davantage les langues régionales et pour permettre dans l'enseignement public, cette fois-ci, cette méthode de l'immersion, où on accueille l'enfant dans sa langue et où toutes les matières sont enseignées. Il n'y a pas qu'un cours de langue régionale comme on a un cours d'anglais. Toutes les matières, histoire, géo, maths, toutes les matières sont enseignées dans la langue régionale. C'est ça l'immersion. Et le Conseil constitutionnel a considéré qu'il n'était pas possible dans l'enseignement public. Enfin, il a été un peu flou parce qu'il a dit dans le service public de l'enseignement. Alors, je ne vais pas faire un cours de droit ici, mais les écoles immersives privées participent au service public de l'enseignement, puisqu'à la fin, le diplôme qu'elles délivrent sera reconnu par l'État. Donc, il y a eu un flou un peu dans cette décision du Conseil constitutionnel qui a dit que dans l'enseignement public, on ne peut pas utiliser cette méthode de l'immersion parce que l'article 2 de la Constitution dit que la langue de la République est le français. Et donc, la langue du service public de l'enseignement doit être le français sans exception. Même si la Constitution, dans un autre article bien placé, bien plus loin, qui est l'article 75-1, protège les langues régionales en disant qu'elles font partie du patrimoine de la France. Donc, la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Molac a été d'interdire l'immersion. Et comme je vous disais qu'il y avait eu un flou sur la façon de s'exprimer du Conseil constitutionnel, les écoles immersives qui existaient déjà, qui sont des associations privées, se sont senties menacées et considérées qu'elles ne pourraient même plus continuer à recevoir des enfants et à continuer leurs activités. Et il y a eu tout un... Du coup, le Premier ministre a nommé deux parlementaires pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, pour trouver une façon de, malgré tout, que les écoles immersives puissent continuer à fonctionner. Donc ça a été juridiquement un peu acadabrantesque. Dieu merci, les écoles immersives fonctionnent toujours et elles n'ont pas été menacées de fermer à cause de cette décision maladroite, malheureuse, du Conseil constitutionnel.
Alors, pour en revenir à la question des territoires ultramarins, ce sont des territoires qui font partie intégrante de la République française, une République qui se dit une et indivisible, mais dans les faits, est-ce que ça reflète la réalité du terrain ?
Alors, la République est une et indivisible, oui, dans le sens où les lois s'appliquent partout, dans certains territoires, je reviendrai dans les petites exceptions ou dans les petites nuances après. Ce qu'il faut entendre par la République une et indivisible, c'est que nous sommes tous citoyens de la République française, nous avons des droits et des libertés, quel que soit le territoire de la République sur lequel on se trouve, on a les mêmes droits, les mêmes libertés et... en sens inverse, les mêmes obligations. Ça, c'est la conception de la République une. Quel que soit l'endroit du territoire sur lequel on se trouve, on doit pouvoir jouir des mêmes droits. De façon plus absolue, peut-être, ce principe d'indivisibilité signifie aussi que la loi est la même pour tous, sur tout le territoire. Or, il y a quelques... Les Outre-mer ont montré que certaines lois ont été adaptées à leur spécificité. Donc en Outre-mer, on est tantôt dans le Pacifique, tantôt dans l'océan Indien, tantôt dans la Caraïbe, avec des réalités parfois différentes de l'Hexagone. Et donc certaines lois sont adaptées par la force des choses, si je puis dire. Donc, mais cela, dans la conception de la décentralisation à la française, cela ne menace pas l'unité de la République. Nous sommes citoyens français, quel que soit le territoire sur lequel nous nous trouvons.
Alors, vous avez été nommée conseillère technique au cabinet de la ministre des Outre-mer, c'est en 2014, puis ambassadrice déléguée à la coopération régionale sur la zone anti-Guyane en 2015. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris au niveau de la politique et de la relation qui existe entre l'État français et les territoires ultramarins ?
Alors, c'était une très belle expérience. Alors, un grand hasard. Donc, je suis enseignante à l'Université de Bordeaux. Et en tant qu'enseignant-chercheur, puisqu'un universitaire est un enseignant-chercheur, on fait des colloques, on fait des conférences. Et lors d'un colloque à Paris sur le statut des Outre-mer, j'ai été approchée et on m'a proposé de travailler en cabinet ministériel. Alors, moi qui suis publiciste, vous m'avez demandé tout à l'heure que c'était quoi le droit public. Alors, s'il y a des étudiants en droit qui nous écoutent et pour les autres, en droit, on distingue rapidement deux grandes branches du droit, le droit privé qui concerne les rapports entre individus, entre personnes privées, vous, moi, dans notre vie de tous les jours, et le droit public qui concerne les pouvoirs publics, l'État. Donc un administré qui a un problème avec une administration, ce sera souvent du droit public. Donc le droit constitutionnel, le droit administratif, tout ça c'est du droit public par exemple, j'espère que j'ai été assez claire, mais même si j'ai été rapide. Et donc, j'ai eu cette belle expérience en cabinet ministériel. J'ai dit oui, bien sûr, parce que ça me permettait, tout ce que j'avais appris dans la théorie, dans les livres, ça me permettait de le confronter. Je suis assez fascinée par les pouvoirs, le pouvoir et les pouvoirs publics et le fonctionnement de nos institutions. Donc, pouvoir travailler en cabinet ministériel était une expérience exceptionnelle au ministère des Outre-mer. Donc, on voit comment fonctionne le travail interministériel, pourquoi le Premier ministre, il a bien une raison pour laquelle il est le Premier ministre, c'est-à-dire que c'est lui qui arbitre. Quand des ministres ne sont pas d'accord sur un même sujet, c'est le Premier ministre qui tranche et qui arbitre. Imaginez, par exemple, sur le glyphosate, vous comprenez bien que le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Écologie n'auront pas forcément la même vision des choses. Et donc, c'est le Premier ministre qui va trancher. Donc, ça m'a permis de voir de l'intérieur comment fonctionnaient vraiment les institutions que j'enseignais à mes étudiants. Et après cette expérience en cabinet ministériel, j'ai eu la chance qu'on me propose le poste d'ambassadrice déléguée à la coopération régionale dans la zone anti-Guyane. Nos Outre-mer, donc nos auditeurs le comprennent bien, sont situés ou dans le Pacifique, ou dans l'océan Indien, ou dans la Caraïbe, donc dans l'océan Atlantique, et ont des voisins qui sont des États. La Guyane est entourée du Suriname et du Brésil, la Martinique et la Guadeloupe et les îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sont entourées de toutes les îles caribéennes qu'on connaît bien, la Jamaïque, Haïti, la République dominicaine, Sainte-Lucie, la Barbade. Et donc, géographiquement, je reste dans cette zone, mais je pourrais faire un petit tour dans l'océan Indien et le Pacifique aussi, mais c'est la même idée. Géographiquement, donc, nos Outre-mer sont entourés de voisins avec lesquels ils ont des relations. Et comme ces voisins sont tout de suite des États, ça leur donne une compétence ou une action dans le domaine international. Et normalement, les affaires internationales, c'est du domaine régalien de l'État. C'est-à-dire que normalement, il n'y a que l'État qui peut faire des relations internationales, pas les collectivités territoriales. Et donc, on a cette spécificité outre-mer où l'État français accompagne et permet aux Outre-mer d'avoir des relations avec leurs États voisins, donc de faire de la diplomatie, si je puis dire. Et donc, depuis 1990, l'État français a créé cette fonction d'ambassadeur délégué à la coopération régionale des Outre-mer, c'est-à-dire que c'est un ambassadeur qui vient du ministère des Affaires étrangères, du Quai d'Orsay, et qui accompagne les collectivités d'Outre-mer, les élus, les exécutifs des Outre-mer, quand ils veulent avoir des relations. Donc le président de la collectivité de Guyane, s'il veut avoir une relation avec le Brésil, l'ambassadeur accompagnera ces choix ou ces volontés politiques-là d'avoir des relations avec leurs voisins. C'était une fonction et une expérience très enrichissante. Donc, je relevais à la fois du ministère des Affaires étrangères, donc avec un passeport diplomatique et tout l'imaginaire que représentent les ambassades, la diplomatie. Et également, je relevais également du ministère des Outre-mer. Donc, j'étais en relation avec les préfets d'Outre-mer aussi, les élus locaux. Donc, c'était passionnant et il y a vraiment une plus grande coopération à mettre en œuvre, parce que la colonisation et l'histoire de nos Outre-mer ont fait que les Outre-mer ont une relation exclusive avec l'Hexagone, je ne dis plus la métropole, avec l'Hexagone. Mais il faut aussi développer leur relation avec leurs voisins pour qu'ils s'insèrent dans leur, et qu'ils fassent face aux mêmes défis. Par exemple, quand il y a eu une grosse catastrophe comme Irma, quand il y a des séismes, comme on a eu l'expérience, l'exemple en Haïti, il est important que nos Outre-mer puissent agir avec leurs voisins pour répondre aux mêmes problématiques et aux mêmes challenges.
Alors, Véronique Bertil, vous avez cofondé en 2018 l'Association des juristes en droit des Outre-mer, l'AJDOM, dont vous êtes la secrétaire générale. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, ses buts et ses missions ?
Oui, alors... Avec deux collègues, alors un collègue qui est le professeur Mélin Soukramanien, qui lui est lui aussi réunionnais et grand constitutionnaliste reconnu. Il a été déontologue à l'Assemblée nationale notamment, et professeur à l'Université de Bordeaux, et actuellement président de l'INSP. Président de l'INSP, l'INSP c'est ce qui a remplacé l'ENA. Donc mon collègue avec qui j'ai fondé cette association, et une autre collègue qui s'appelle Léa Avar, qui est maître de conférence et actuellement en poste en Nouvelle-Calédonie, la chanceuse. Avec ces deux collègues, nous sommes tous les trois chercheurs sur les questions de droit des Outre-mer, de statut, toutes les spécificités dont nous parlons depuis tout à l'heure. Et nous nous sommes rendus compte que ce droit est de plus en plus complexe et que ce droit est de moins en moins connu et de moins en moins compréhensible. Et donc on s'est dit, mais il faut qu'on participe, outre nos travaux, qui sont des travaux assez confidentiels, il faut lire une revue juridique pour voir mes travaux. Donc on s'est dit que, outre nos travaux personnels qui restent assez confidentiels et peu connus, on pourrait créer une association dont le but serait de faire connaître et de diffuser, d'apporter une expertise sur le droit des Outre-mer. Parfois, les avocats nous contactent parce qu'eux-mêmes ne savent pas tellement c'est complexe quel droit appliquer. Pareil pour les collectivités locales, un maire d'une commune, un président d'une région, d'une collectivité d'outre-mer par exemple, ne sait même plus quel droit il doit appliquer ou ce qu'il peut faire. Donc il nous a semblé important de créer un réseau comme ça de personnes qui travaillent sur les outre-mer, qui connaissent un peu toutes les subtilités de ce droit complexe pour pouvoir répondre et diffuser, vulgariser au sens noble du terme ce droit-là qui... Outre l'intérêt pour les ultramarins qui vivent dans ces territoires et savoir quel droit applicable dans ces territoires, pour le droit français, c'est aussi l'intérêt de savoir jusqu'où le droit français accepte d'aller quand il y a la norme et un principe et qu'il accepte de faire des exceptions. Jusqu'où est-ce que dans mon identité, j'accepte de faire des exceptions et comment ? Et est-ce que ça ne remet pas tout l'équilibre ou toute la cohérence d'ensemble en cause ?
Et justement, est-ce qu'il y a suffisamment de juristes spécialisés dans le droit des Outre-mer ?
Ah, je vous dirais que non, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a tous les avocats, évidemment, qui travaillent dans les Outre-mer, qui connaissent bien ces Outre-mer. La Cour administrative d'appel de Bordeaux est le ressort géographique de toutes les décisions qui sont prises par les tribunaux administratifs dans les Outre-mer. Donc, évidemment, dans les tribunaux, les juges et les avocats peuvent se spécialiser là-dessus, mais ça devient tellement complexe que parfois, je vous l'ai dit, ils doivent accompagner. Ensuite, en tant qu'universitaire, que chercheur, que membre de la doctrine, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent sur le droit, en tant qu'enseignant-chercheur, nous ne sommes pas nombreux. Mais par exemple, pour vous donner un exemple concret, l'Association des juristes en droit des Outre-mer, l'AJDOM, que nous avons créée il y a 4 ans, compte aujourd'hui 100 membres. Donc on peut considérer que c'est beaucoup, pas beaucoup. Parmi ces membres, il y a une majorité d'universitaires, en poste ou en hexagone ou dans les universités d'outre-mer. Il y a aussi beaucoup d'avocats qui travaillent sur des dossiers d'outre-mer. Voilà, majoritairement des universitaires et des avocats.
On va quitter un peu le domaine des Outre-mer pour parler d'un projet. Vous êtes à l'origine du projet Start-U Droit Devant, une école d'été qui accompagne les étudiants de L1 Droit et Sciences Politiques à faire leur premier pas à l'université pour mieux s'intégrer. Un projet qui a été lauréat des trophées Talents U 2022. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les origines de ce projet et en quoi ça consiste concrètement, cette école d'été ?
Bien. Alors, l'origine de ce projet est un appel à projet avec des financements européens de la région à Nouvelle-Aquitaine, qui a lancé un appel à projet pour lutter contre le décrochage universitaire et l'échec à l'université. Et avec une collègue, le professeur Laura Sottoni-Laguioni à l'Université de Bordeaux, à la faculté de droit, nous avons eu l'idée, nous sommes partis du constat que Outre, alors déjà, la faculté de droit, les études de droit souffrent de nombreuses représentations et de tout un imaginaire. Alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à mon époque, je parle comme une vieille maintenant. On considérait que les études de droit, c'était difficile, qu'il fallait tout apprendre par cœur, qu'on ne réussissait jamais, que le taux de réussite en première année était catastrophique. Et donc, on a voulu s'attaquer à ces fantasmes-là, à ces représentations-là. Et donc, on a proposé, on s'est dit, pourquoi ne pas accueillir en début de première année, avant même que les cours ne commencent, les étudiants qui le souhaitent, c'est sur la base du volontariat, et pendant une semaine, en école d'été, on a appelé ça une école d'été, on les reçoit à la fac de façon décontractée, sans leur donner de cours, il n'y a rien de contraignant ou de lourd. On les accueille à la fac, on leur fait visiter les locaux pour qu'ils déjà s'habituent à ce nouvel environnement, puisqu'ils arrivent de lycée de toute la région Nouvelle-Aquitaine ou même de toute la France. Et donc, ils découvrent ce qu'on appelle un amphithéâtre. Je fais cours dans un amphithéâtre de 1000 places, donc c'est assez impressionnant quand on arrive d'un petit lycée d'être dans un amphithéâtre. Donc, c'était l'idée d'accueillir les étudiants avant qu'ils ne commencent, pour ceux qui le souhaitent, pour qu'ils viennent se familiariser avec leur environnement. Et comme la faculté de droit a de nombreux partenariats avec tous les institutionnels ou les professionnels du droit de la région de Bordeaux, on a eu l'idée de demander au tribunal judiciaire, vous savez, les cacahuètes Place Péberlan, je ne sais pas comment vous les représentez, mais c'est le tribunal judiciaire. Donc tous les institutionnels, le tribunal judiciaire, la cour d'appel de Bordeaux, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux, comme je suis publiciste, on l'a dit, j'ai aussi voulu mettre du droit public, donc la mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, nous avons sollicité ces institutions qui sont des professionnels du droit ou qui font du droit. On leur a demandé si on pouvait venir visiter ces lieux avec nos étudiants. Tout le monde a répondu très positivement, et notamment l'École nationale de la magistrature, l'ENM. Nous avons la chance d'avoir à Bordeaux l'école qui forme nos juges de demain. Et l'École nationale de la magistrature a aussi répondu très positivement. Et donc nous proposons cette petite semaine un peu d'intégration, que je ne sais pas comment le dire, à nos étudiants qui peuvent aller se déplacer dans ces juridictions, qui voient concrètement ce qu'est le droit, qui aussi ont des moments de rencontre avec des professionnels du droit, donc bien sûr des avocats, des juges, mais aussi parce que le droit mène à beaucoup de choses, des huissiers, des notaires, des enseignants-chercheurs dont je suis, des ambassadeurs, puisque plusieurs ambassadeurs étaient ou ont fait des études de droit, des journalistes, des maisons d'édition de livres. On a essayé dans nos réseaux personnels et même au-delà de lister tous les métiers auxquels le droit peut mener et de solliciter ces professionnels pour qu'ils viennent échanger de façon complètement détendue et informelle avec nos étudiants. Ça fait 4 ans qu'on fait Startu, c'est toujours un grand succès, je pense. Les retours que j'ai des premiers étudiants qui sont maintenant en master, c'est vraiment une bonne semaine où les amitiés se créent, et ceux notamment qui arrivent d'ailleurs et qui ne connaissaient personne, font des amitiés, se sentent moins seuls et se sentent un peu plus confiants pour commencer l'année.
Et une dernière question, est-ce que vous avez des conseils pour des étudiantes et des étudiants qui souhaitent se lancer dans des études de droit ou même qui sont déjà en cours de cursus ?
Alors, des conseils, travailler régulièrement. On a, à mon époque, l'année était sur une année, alors que maintenant, c'est semestrialisé. Et donc, on peut avoir le sentiment, et puis j'ai aussi personnellement ce défaut-là, de tout faire à la dernière minute. À l'université, ça n'est plus possible. Donc, même si les cours ne sont pas obligatoires en amphi, je parle pour les étudiants de droit, je ne connais pas trop les autres disciplines ou les autres universités, mais les cours ne sont pas obligatoires en amphi parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire l'appel. Et même si certains professeurs sont plus intéressants ou plus rébarbatifs que d'autres, mon premier conseil, c'est de venir en cours pour entendre ce que j'appelle la petite musique du professeur ou en tout cas sa façon d'expliquer et de démontrer son cours. Façon que vous n'aurez pas toujours dans les manuels. Pas facile de travailler en manuel. On a souffert pendant le Covid de devoir faire des cours à distance et de ne pas avoir une relation professeur-étudiant. On a beaucoup perdu pendant le Covid. Je pense que c'était très difficile pour les étudiants. Ça l'était aussi pour les enseignants et on perd un peu le sens de notre métier en distanciel. Donc, il y a évidemment, comme toujours, des profs qu'on aime et des profs qu'on n'aime pas. Mais quoi qu'il en soit, pour réussir, aller en cours, les TD sont obligatoires, donc évidemment, aller en TD. Et ensuite, essayer de travailler régulièrement avec un petit rythme. Sinon, vous devrez faire à la dernière minute des journées de 24 heures sans dormir. Alors que si vous aviez réparti ça tout au long du semestre, ça aurait été plus léger, tout en se faisant des soirées le jeudi soir ou le samedi soir.
Campus Bordeaux 88.1.
Radyosunda 88.1'desiniz.